Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire, l'extrême nord du Cameroun endeuillé par une attaque qui a fait 3 morts. Les assaillants ont également enlevé 6 personnes et brûlé des maisons. Changement dans la composition de la commission électorale kényane. 6 nouveaux membres ont été nommés. Démonstration de force de l'opposition togolaise qui continue de demander des réformes constitutionnelles. Nous reviendrons sur cet élément et nous démarrons tout de suite ce journal. L'activiste franco-béninois Kémi Séba, qui avait brûlé publiquement le mois dernier un billet de 5 000 francs CFA pour protester contre la Françafrique, a fait l'objet mercredi d'une procédure d'expulsion du Sénégal pour menace grave à l'ordre public. Après avoir passé 5 jours en détention préventive, Kémi Séba est un membre de son mouvement Urgence panafricaniste. Poursuivi pour complicité pour lui avoir fourni un briquet, avait été relaxé le 29 août dernier par la Chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de Dakar. Un soldat malien a été tué ce matin au marché de Ménaka, dans le nord du Mali, en s'opposant à une tentative de vol d'un véhicule de l'armée. C'est ce qu'a annoncé l'armée malienne dans un communiqué. Depuis la fin juillet, cette ville du nord du Mali est sous le contrôle des combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion à dominante Touareg qu'il avait reprise au groupe armé pro-gouvernemental Gaïtcha. Une attaque contre un village de l'extrême nord du Cameroun a fait 3 morts dans la nuit d'hier. 6 personnes ont également été enlevées et 46 maisons incendiées. Le point avec Emmanuel Jultap.
Aux environs de 23 heures, affirme une source contactée par VOA et ayant requis l'anonymat, les assaillants de Boko Haram ont fait irruption dans le village Diaba, en treillis de l'armée camerounaise. Une fois au village Diaba, les éléments de Boko Haram qui feignaient une patrouille de l'armée camerounaise se sont transformés en meurtriers et pyromanes. En mi-journée, des sources affirmaient que l'attaque a fait 3 morts, 6 personnes ont été enlevées, 46 maisons incendiées, parmi lesquelles une chapelle de l'Union des Églises évangéliques du Cameroun. Un employé d'une agence de coopération internationale que nous avons joint depuis COSA témoigne qu'un climat d'insécurité règne dans cette localité frontalière au village Diaba où l'attaque a eu lieu. C'est ainsi que les militaires camerounais ont repoussé hier dans la nuit à COSA quelques assaillants de Boko Haram venus d'une montagne qui sépare le Cameroun du Nigeria. Emmanuel Jultap, Yaoundé, VOA Afrique.
Le Nigeria a convoqué le chargé d'affaires sud-africain à Abuja pour protester contre le décès d'un Nigérian qui serait mort étouffé par des policiers sud-africains lors d'une garde à vue. Selon le ministère nigérian des Affaires étrangères, Kingsley Ikeri, âgé de 27 ans, résidant dans la province du KwaZulu-Natal, a été étouffé à mort par la police qui le soupçonnait de trafic de drogue. Au Kenya, la commission électorale vient d'annoncer des changements parmi ses hauts responsables, une recomposition décriée par le camp du président sortant Uhuru Kenyatta. Le point avec Dilidiko.
6 nouveaux responsables viennent d'être nommés au sein de la commission électorale pour les nouvelles élections prévues le 17 octobre et ce après l'annulation par la Cour suprême des résultats du scrutin du 8 août donnant le chef de l'État sortant victorieux. Ces nouvelles nominations interviennent apparemment suite à la demande du leader de l'opposition Raila Odinga d'une restructuration de la commission avant les élections d'octobre. Alors que la campagne électorale débute aujourd'hui, le parti Jubilee du président Uhuru Kenyatta s'insurge contre ces changements. Dans une lettre au président de la commission électorale, ce parti soutient, sans autre précision, que 9 des personnalités figurant sur la liste des responsables électoraux pour le scrutin du mois prochain sont connues pour leur attitude partisane et leur proximité avec l'opposition. La commission n'a pas encore répondu à ces allégations, mais dans une déclaration publiée ce mercredi, elle a fixé au 15 octobre la clôture de la campagne électorale, soit 2 jours avant la nouvelle présidentielle.
Le Tchad tente d'attirer les investisseurs. Une table ronde de 3 jours se tient à partir d'aujourd'hui à Paris en présence du président Idriss Déby Itno. Cet événement regroupe le gouvernement tchadien et ses partenaires pour mobiliser les fonds de financement du plan national de développement. N'Djamena, confrontée à la chute des cours du pétrole, cherche 3 000 milliards de francs CFA auprès des bailleurs. L'Organisation régionale d'Afrique australe a annoncé l'envoi au Lesotho d'une équipe chargée de faire la lumière sur l'assassinat du chef d'état-major de ce royaume. La SADC craint un regain de tension après l'assassinat du général Motso Motso. Il a été tué dans une caserne de Maseru lors d'une fusillade quand deux officiers supérieurs perçus comme étant membres d'une faction rivale ont tenté d'entrer par la force dans son bureau. Ces deux officiers ont d'ailleurs été tués par les gardes-corps du général.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la riposte s'organise après l'annonce par le gouvernement de la fin du programme DACA qui accordait un statut temporaire aux enfants arrivés illégalement aux États-Unis. Cette loi permettait d'étudier et de travailler. Anastasie Toudiech.
Première salve sur le front judiciaire, l'annonce ce soir par le procureur général de l'État de New York d'une action collective en justice menée par plusieurs États afin de protéger les droits des bénéficiaires du DACA. Le procureur général ainsi que le gouverneur de l'État de Washington ont également annoncé des actions en justice. Près de 800 000 personnes sont concernées par la fin du programme DACA, dont 42 000 à New York, la plupart provenant d'Amérique latine et ont une vingtaine d'années. La décision du président Trump de supprimer ce programme a provoqué une vague de critiques émanant tant du monde politique que des affaires ou de responsables religieux. Monsieur Trump, qui a repoussé au 5 mars la fin du programme, a confié le dossier à un congrès contrôlé par son parti républicain, affirmant qu'il appartient désormais aux législateurs de mettre en place la loi qui statuera sur le sort des bénéficiaires du programme DACA.
L'ouragan Irma, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, a frappé ce matin l'île de Barbuda et s'approchait de l'île française Saint-Barthélemy et de la franco-néerlandaise Saint-Martin, placée en alerte au maximum. La tempête se dirige vers les États-Unis, Saloua Diafari.
L'ouragan de la taille du Nigeria est impressionnant. L'œil du cyclone est passé sur l'île des Caraïbes vers 6h GMT, accompagné de vents atteignant 295 km/h. Irma est de catégorie 5, soit le maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans. Il se déplace à la vitesse de 24 km/h. Une houle avec des creux dépassant 12 mètres et un déferlement d'une extrême violence sur les rivages, des précipitations diluviennes. Plusieurs petites îles des Caraïbes orientales étaient les premières sur son passage, dont la Guadeloupe, les îles Turques et Caïcos et le sud-est des Bahamas. L'ouragan continue sa montée.
It's very important that everybody in our state gets prepared. Three days of water per person, three days of food.
Dans les supermarchés, c'est la panique générale. La population s'approvisionne en eau, nourriture et piles. Des centaines de personnes ont refusé d'évacuer. Le président américain Donald Trump a déclaré les îles Vierges, Puerto Rico et la Floride en état d'alerte. Le gros de l'ouragan est attendu en Floride à partir de vendredi. Irma est désormais plus puissant que les ouragans Louis 1995, Hugo 1989 et Harvey qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards de dégâts matériels.
Escalade verbale dans les relations entre la Turquie et l'Allemagne, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, les déclarations des responsables politiques allemands sur la Turquie renvoient au nazisme. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite favorable à un arrêt des négociations avec Ankara sur son adhésion à l'Union européenne. Les relations entre la Turquie et l'Allemagne, deux partenaires historiques qui coopèrent notamment sur le dossier migratoire et dans la lutte contre le terrorisme, se sont fortement tendues depuis la tentative de putsch du 15 juillet 2016 en Turquie. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, demande à l'opposition syrienne d'accepter qu'elle n'a pas gagné la guerre. Il demande aussi au gouvernement syrien de ne pas crier victoire. M. Mistura estime que la priorité actuelle est de poursuivre la mise en œuvre des zones de désescalade en Syrie, puis de mettre sur pied un cessez-le-feu national qui ne pourra tenir que grâce à un processus politique. Le pape François a appelé à prier pour le Venezuela, plongé depuis des mois dans une grave crise politique et économique. Il a fait cette déclaration à bord de son avion en vol pour la Colombie, où il se rend pour soutenir le processus de paix après la signature d'un accord destiné à mettre un terme à plus de 50 ans de conflit. Aung San Suu Kyi, qui dirige le gouvernement birman, sort de sa réserve et dénonce une désinformation donnant, selon elle, une vision trompeuse de la crise des musulmans Rohingyas. C'est le premier commentaire officiel depuis le début des troubles fin août de la prix Nobel de la paix très critiquée à l'étranger. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Blanche Sanou qui nous présente la Minute Éco.
Le groupe EcoBank a bénéficié d'un prêt de 250 millions de dollars après la signature d'une convention avec la Deutsche Bank à Lomé. Selon les précisions de EcoBank Transnational Incorporated, la maison mère du groupe EcoBank, cette nouvelle facilité de 250 millions de dollars est destinée en priorité au refinancement des emprunts arrivant à échéance. La durée de la convention de prêt est de 5 ans. Au Cameroun, le gouvernement a attribué 75 milliards de francs CFA pour le développement de l'agrobusiness. Cofinancée avec la Banque africaine de développement, la BAD, cette enveloppe a été débloquée pour l'exécution du projet de développement des chaînes de valeur agricoles, notamment la modernisation de la culture de la banane plantain, du palmier à huile et de l'ananas à travers le territoire national. Ce projet d'une durée de 5 ans a pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire à travers ses filières en apportant des appuis financiers et techniques aux organisations paysannes et aux jeunes intéressés par l'agrobusiness. Enfin, le Sud-Africain Alan Gray, gestionnaire d'actifs et investisseur boursier, augmente sa participation dans le capital de la compagnie minière Caledonia Mining. De 1,17 million d'actions détenues, celle-ci est passée à 1,26 million d'actions. Alan Gray contrôle désormais 2,45 millions d'actions, représentant 19,38% du capital de Caledonia Mining. Au-delà du secteur minier, Alan Gray gère plusieurs fonds, dont un destiné à des placements sur des actifs, cotés ou non, dans des pays africains hors Afrique du Sud.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Coupe du Monde 2018, l'Argentine se complique la tâche.
Un match nul, un but partout contre le Venezuela à Buenos Aires. À l'issue de cette 16e journée, le Brésil, déjà qualifié largement en tête du tournoi de qualification devant l'Uruguay, la Colombie et le surprenant Pérou. Les quatre premières équipes sont directement qualifiées pour la Coupe du Monde. La cinquième de la zone AM Sud, actuellement l'Argentine, se mesurera à la Nouvelle-Zélande, qualifiée de la zone Océanie pour gagner sa place en Russie lors d'un match de barrage.
Les Américains aussi ont peiné la nuit dernière.
Oui, puisque les États-Unis ont rétrogradé à la quatrième place de la zone CONCACAF après le match nul arraché de justesse au Honduras, un but partout. Le quatrième du groupe participera à un barrage aller-retour contre le cinquième des qualifications de la zone Asie. Le Costa Rica s'est un peu plus rapproché du mondial en faisant match nul, un but partout à domicile face au Mexique.
En Afrique, toujours aucun pays qualifié pour le mondial.
Mais les choses s'éclaircissent après la quatrième journée. On rappelle que seuls les premiers de chaque groupe iront en Russie jouer la Coupe du Monde. Dans le groupe A, la Tunisie y est presque. Après un match nul arraché à Kinshasa en deux minutes, les Aigles de Carthage sont premiers avec 10 points, 3 longueurs d'avance sur les Léopards. Dans le groupe B, l'Algérie KO, la Zambie l'a même emporté 1-0 hier soir à Constantine face à des tristes Fennec éliminés. Les Chipolopolos sont deuxièmes de ce groupe devant les champions d'Afrique en titre, le Cameroun aussi éliminé. Le Nigeria avec 10 points est premier et favori pour la qualification. Dans le groupe C, c'est plus serré après la défaite surprise de la Côte d'Ivoire à Bouaké, 2-1 face au Gabon, pourtant réduit à 10. Le match du 6 novembre prochain entre les Lions de l'Atlas et les Ivoiriens sera sans doute la finale de ce groupe. Et dans le groupe D, incroyable requin bleu du Cap-Vert. Ils battent deux fois l'Afrique du Sud et se retrouvent premiers ex-aequo avec le Burkina Faso. Les deux équipes ont 6 points chacune après le match nul de partout des étalons face aux Lions de la Teranga à Ouagadougou. Enfin, dans le groupe E, l'Égypte tient toujours la corde après sa victoire 1-0 contre l'Ouganda. À Alexandrie. À suivre la cinquième journée de cette zone Afrique, elle aura lieu en octobre prochain.
Enfin, vers un marché des transferts plus court en Europe.
Oui, le président de l'UEFA, Alexander Seferin, soutient le projet de la Première Ligue anglaise visant à raccourcir la durée du mercato d'été pour empêcher les joueurs d'être transférés après la reprise du championnat anglais.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Passons à nos dossiers du jour. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues d'une dizaine de villes au Togo à l'appel de l'opposition qui réclame un retour à la constitution de 92. Le gouvernement, dans un geste considéré comme une concession, a annoncé son intention de restaurer la limitation des mandats présidentiels. Reportage à Lomé, Kay Lawson.
La rue grogne à Lomé. Des manifestants sont visibles sur plusieurs kilomètres. Les leaders, militants et sympathisants de l'opposition togolaise exigent dans la rue le retour à la constitution de 1992. Sur les lèvres, retentissent le mot changement. Pour ces Togolais, changement rime avec alternance.
On est fatigué, on veut changement. Changement, pourquoi? 50 ans, c'est trop. Au Bénin, il y a changement. Au Burkina, il y a changement. Au Ghana, il y a changement. On est fatigué au Togo. 50 ans, c'est trop. S'il n'y a pas changement, on va toujours sortir.
Si la famille des forts était au pouvoir, et je vais mourir, ils sont toujours au pouvoir, ce n'est pas bien. On veut l'alternance politique.
Il s'appelle un bail que nous sommes en train de revendiquer la constitution de 1992 et le vote de la diaspora.
Sur les pancartes, on peut lire « La dictature se nourrit du silence et de l'inactivité. C'est quand ans, ça suffit » ou encore « Retour à la constitution de 1992 et vote de la diaspora ». On ne nous a pas donné de l'argent, nous sommes venus de notre propre gré, scandent ces manifestants. Ce qui réconforte les leaders qui appellent le pouvoir à écouter la rue. Maître Dodia Pévon, président des Forces démocratiques pour la République, FDR.
Nous sommes dans la rue. Je crois que le pouvoir comprendra le message. Et si le pouvoir comprend et revient de meilleurs sentiments pour que les réformes se passent dans la paix, on ne peut pas tout le temps nous tourner à rond cette fois-ci. Lorsqu'ils vont vouloir faire les choses, il faut qu'ils le fassent pour qu'on sache qu'on a obtenu les réformes. Ce n'est pas juste des promesses qu'ils vont nous faire. On va faire ça et puis on va reculer. On restera mobilisé jusqu'à l'obtention réelle et concrète de ce que nous demandons.
Ce même mercredi, les associations qui soutiennent le président Fornia Singbe ont tenu un meeting pour, disent-elles, réaffirmer leur attachement aux valeurs de paix. Boniface Essokassi, l'un des organisateurs.
Nous voulons la paix dans ce pays. Nous n'avons jamais refusé les réformes. Nous voulons les réformes. Nous voulons qu'on fasse ces réformes dans de bonnes conditions.
Ce mardi 5 septembre, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi portant modification des articles 52, 59 et 60 de la Constitution togolaise. Ces articles concernent en particulier la limitation des mandats et le mode de scrutin. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les retombées non seulement pour le Kenya, mais aussi pour toute l'Afrique du verdict historique de la Cour suprême kenyane qui a annulé la réélection d'Uhuru Kenyatta pour irrégularité. Les juges kenyans ont-ils ainsi prouvé leur totale indépendance du pouvoir politique? Peut-on imaginer pareil jugement dans d'autres pays africains où les élections sont contestées? Dans quelles conditions le nouveau scrutin va-t-il se tenir au Kenya? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier une résolution visant à sanctionner les auteurs de violations de l'accord de paix d'Alger ou ceux qui s'en prennent au casque bleu déployé au Mali. Un vote qui intervient alors que le processus de paix est malmené dans ce pays avec plusieurs attaques dans le nord et le centre. Pour analyse, Yacouba Ouedraogo a joint Sega Diarra, analyste politique à Paris.
Cette résolution stipule que toute personne qui entraverait à cela se soumettrait à des sanctions, notamment du gel des avoirs et d'interdiction de voyage. Donc, principalement, ce sont des mesures qui ont déjà été mises en place ailleurs par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et on se rend compte que ces mesures peuvent être efficaces dans la mesure où aujourd'hui, tous ceux qui entravent principalement à la mise en œuvre et à la bonne marche de cet accord-là, généralement, c'est pour des intérêts financiers, notamment pour bénéficier du trafic de drogue que vous savez, dans la zone, et surtout qui profitent à des groupes qui contrôlent les routes de ce trafic-là.
Qui sont visés par ces sanctions-là?
Le Conseil a pris sa décision à la demande du gouvernement malien. Donc, il s'agit principalement de tous les groupes qui sont sur le terrain, que ce soit au niveau des groupes armés signataires, que ce soit au niveau des groupes proches de Bamako. Il s'agit là vraiment de prendre une mesure supérieure pour faire cesser ces affrontements fratricides entre ces différents groupes dans le nord du Mali, mais surtout et aussi de faire en sorte que l'accord puisse pour une fois avancer.
Le Conseil adoptait ce régime de sanctions-là hier, pendant que deux soldats de la paix sont tués au même moment au nord-est. Est-ce qu'on ne peut pas douter de l'efficacité de ces sanctions-là?
Ces sanctions ne concernent pas les groupes terroristes qui sont au nord du Mali et, comme vous le savez, qui sont à la base quand même de toutes les attaques contre les forces internationales et même les forces loyales. C'est-à-dire que dans le nord du Mali, ce qu'il faut comprendre, c'est que parallèlement aux groupes terroristes qui exercent, nous avons les anciens signataires de l'accord, que ce soit des groupes proches de l'ancienne rébellion ou des groupes proches de Bamako, qui s'affrontent assez mutuellement. Et l'accord, la résolution concerne principalement ces différents groupes-là.
S'il y a des sanctions, c'est qu'on soupçonne, bien sûr, des signataires de l'accord n'est pas le respecter.
Il s'agit principalement de la CMA, du Gatia et de tout groupe armé qui serait dans le nord du Mali, qui se livrerait à reprendre des positions qui ont été figées dans l'accord pour simplement contrôler des routes de trafic qui continuent de plus belle dans le nord.
C'était l'analyste politique Sega Diarra, joint à Paris.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
L'ouragan Irma continue de faire des dégâts dans les Caraïbes et les Antilles. Après Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Porto Rico, l'ouragan de catégorie 5 devrait atteindre Haïti demain. Pour faire un point sur la situation, Claire Morin-Gibourg a joint une gérante de restaurant, Madame Chantal Poli.
Là, on est en train d'emballer toutes nos affaires, d'arranger et de fermer les fenêtres avec des plywoods, tout ça. Et là, on est ouvert juste pour le lunch et vers les 1h, 2h, malgré on a, il fait beau, hein, on a du soleil, mais on ne sait pas ce qui va se passer vers les 3h, 4h. On peut fermer avant 4h.
Comment est l'ambiance à Haïti actuellement?
Bon, les gens sont très inquiets, les supermarchés sont remplis de personnes, tout le monde fait des provisions, les rues sont embouteillées, tout. On est très inquiet, vous savez, Haïti, là, on est très inquiet.
Alors, les premières images de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin étaient assez impressionnantes. Est-ce qu'aujourd'hui, la vigueur de ce cyclone, les dégâts qu'il a fait dans les Antilles, est-ce que cela a inquiété un petit peu plus la population?
Oui, parce que nous, on est beaucoup plus fragiles en Haïti, avec les manquements qu'on a, on est plus vulnérables. On est plus vulnérables et ça fait peur, hein. Ça fait peur.
Et comment vous vous êtes préparé également, je veux dire personnellement, chez vous, à la maison? Est-ce que vous avez fait des aménagements particuliers?
Bon, chez moi, je fais des aménagements et je nettoie les égouts, les trucs comme ça à côté de la maison. Et moi, je compte sur Jésus. Dans mon quartier, c'est déjà commencé parce que c'était depuis dimanche soir, on a eu une pluie. Et à côté de chez moi, c'est défoncé, c'est vraiment. Avant-hier soir, c'était difficile d'entrer chez moi. Et puis avant-hier soir encore, on a une pluie terrible qui a défoncé les rues. Ce matin, c'est les tracteurs qui ont passé pour enlever les boues et les fracas dans les rues. De chez moi, c'est vraiment terrible. Sauf que Irma n'est pas encore arrivée. Hein. Donc, est-ce qu'on est solidaire? Je ne peux pas le dire. Est-ce qu'on est solidaire parce que chacun dans son coin? C'est comme ça.
C'était Chantal Poli, jointe en Haïti.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, des législateurs clés appellent à l'adoption d'un projet de loi pour protéger quelques 800 000 Dreamers, c'est-à-dire ces jeunes en situation irrégulière après être entrés dans le pays en bas âge, en compagnie de leurs parents. Le président Donald Trump a décidé de mettre fin au programme de son prédécesseur Barack Obama, qui permet à ces jeunes sans-papiers d'étudier et de travailler sur le sol américain. Le Congrès doit trouver un compromis sur ce dossier avant mars 2018. Pour une analyse, Timothée Donangmaï a contacté Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington.
C'est un président différent de tous les autres, dans le sens qu'il a entré dans la campagne de réélection le même jour qu'il a été introduit dans sa nouvelle position de président des États-Unis le janvier passé. C'est-à-dire que c'est un président qui se concentre beaucoup sur la question de sa réélection. Il veut maintenir la base des électeurs qui l'ont mis dans cette position excellente et très, très prestigieuse. C'est-à-dire qu'il se préoccupe toujours de faire tout le nécessaire, n'importe par quoi, pour maintenir sa base d'appui.
Les milieux d'affaires et notamment les compagnies technologiques de Silicon Valley ont dénoncé la mesure du président Trump. Pourquoi?
Parce que les jeunes gens desquels ils ont besoin ne peuvent croître, parce que ce sont des jeunes gens d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement partie même de cette révolution de l'Internet, de l'électronique, des moyens sociaux. Dans certains points de vue, il est très, très ironique. Nous avons élevé ces jeunes gens, nous les avons éduqués dans des écoles publiques pour lesquelles nous payons, et maintenant, quand ils sont prêts à travailler, on dit on n'a pas besoin de vous.
La balle est maintenant dans le camp du Congrès. Qu'est-ce qu'on peut attendre des législateurs américains à ce sujet?
Premièrement, naturellement, le président a été très intelligent à le mettre dans les mains du Congrès. Pourquoi? Parce qu'il veut, d'un côté, maintenir la pureté de ses promesses, de son message à ceux qui ont voté pour lui. Mais de l'autre point de vue, il se rend compte qu'il est très, très controversé de faire ça, même d'un point de vue d'un père, d'une personne qui a un cœur et qui a un peu de compassion pour les circonstances dans lesquelles tout le monde peut se trouver sans avoir la responsabilité d'être là. Alors il dit, je vais faire ça si le Congrès ne passe pas une loi dans le prochain 6 mois. Je dois agir parce qu'on doit faire quelque chose. Si le Congrès approuve une loi qui signifie l'expulsion de ces jeunes gens, il peut toujours dire « Je demandais l'opinion des élus du pays. Je ne l'ai pas fait moi-même. » S'ils ne le font pas, il peut dire « Le Congrès n'est pas actif. On ne peut pas compter sur eux. Ils sont toujours dans des luttes idéologiques. Mais je sois le président, je sois un homme d'affaires. Je dois intervenir, je dois faire quelque chose pour sauver le pays et je n'ai pas le choix. »
C'était Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph. À la console, Patrick Deya. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM, Bujumbura. Raga FM, 90.5 Kisangani. Sabou FM, 96.6. Kindia, Guinée. et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.